projet, en fait, depuis des années, je travaille sur la question des droits, dans le but d'écrire un livre là-dessus, et plus j'avance, plus je découvre des problèmes auxquels je ne trouve pas de réponse, ce qui retarde cette entreprise, mais qui m'amène aussi à revenir sans cesse sur mes propres pas, ce que je vais faire ici. C'est-à-dire, je vais partir de quelque chose que j'avais écrit il y a plusieurs années pour aller dans une direction que j'espère nouvelle. Donc, dans un article paru il y a quelques années, j'avais avancé l'hypothèse selon laquelle les théories institutionnalistes du droit, au demeurant fort diverses entre elles, étaient susceptibles d'offrir un cadre intéressant à une conception des droits, et bien sûr, d'abord de ceux d'entre eux qu'on s'accorde à considérer comme fondamentaux, une conception qui s'efforce d'échapper à l'alternative classique du juste naturalisme et du juste positivisme, qu'on peut exprimer grossièrement dans les termes suivants. D'un point de vue juste naturaliste, les droits fondamentaux participent de la nature. Ils sont donc, quelle que soit la manière dont on comprend cette naturalité, naturelle, inaliénable et sacrée, ce qui veut dire qu'ils sont soustraits à l'emprise des pouvoirs constitués et des normes qu'ils édictent. Au contraire, ce sont eux qui constituent ces droits fondamentaux, ces droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, qui constituent la norme d'évaluation des actes de ces pouvoirs en tant qu'ils définissent, je cite de nouveau le préambule de la déclaration de 89, le but de toute institution politique. Du point de vue juste positiviste, en revanche, les droits, s'ils doivent avoir un caractère juridique, sont créés par le droit positif, selon la formule tranchante de Bentham, « Right is the son of the law », et par conséquent, l'idée de droit naturel, de « natural rights », relève purement et simplement du non-sens. Bien entendu, cette position dure, positiviste dure, peut être nuancée, elle l'a été. Même un positiviste peut admettre, comme par exemple Herbert Hart, qu'il puisse exister quelque chose comme des droits moraux, adoptant la forme de vérités élémentaires que tout système juridique présupposerait tacitement. Il n'en reste pas moins que, dans une perspective positiviste, les vrais droits, si l'on peut dire, sont ceux qui sont définis par le droit positif et qui jouissent de la protection que leur assure la loi, l'institution judiciaire. D'ailleurs, les droits de l'homme eux-mêmes ont été rapidement positivés grâce à leur incorporation à des textes ayant valeur constitutionnelle, que ce soit à l'échelle étatique ou à l'échelle transétatique, avec, par exemple, bien sûr, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les objections que l'on peut faire à ces deux conceptions des droits sont elles aussi bien connues. Des droits procédant d'une nature manquant de toute définition précise, et peut-être imaginaire, cette nature, courent le risque d'être dépourvus d'effectivité, faute d'une garantie sociale. Cette notion est significativement introduite dès 1793, dès 1793, dans la liste des droits de l'homme en société, à l'article 1 du projet girondin de déclaration des droits rédigé par Condorcet, et elle est définie, la garantie sociale, à l'article 24, comme l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Et par ailleurs, je note que cette définition est reprise dans la déclaration montagnarde, dite montagnarde, adoptée par la Convention 1793, à l'article 23. En tout cas, d'un point de vue positiviste, il est clair que la proclamation de droits naturels est sans doute l'expression de revendications respectables, mais une chose est une revendication morale légitime, autre chose, un droit juridique opposable. Comme le dit rapidement Bentham, les raisons de souhaiter qu'il y ait des droits ne sont pas des droits, la fin n'est pas le pain. Réciproquement, argument dans l'autre sens, des droits de nature purement positive, que cette origine soit
Que cette origine soit la législation, la coutume ou la jurisprudence, ou les trois à la fois, finalement, ça importe peu, de tels droits ne sont-ils pas constitutivement fragiles? Comme l'a dit un théoricien positiviste que Carl Schmitt cite quelque part, je ne retrouve pas la référence précise, un trait de plume du législateur et tout un code disparaît. L'inaliénabilité que l'on reconnaît aux droits fondamentaux paraît difficilement compatible avec le statut de la positivité. Les termes du débat sont donc assez simples. On peut les formuler, si on veut, en termes kelseniens. Si les droits fondamentaux sont des droits naturels, ce qui veut dire au fond, si leur existence correspond à une exigence rationnelle, leur efficacité suppose une garantie externe, et cette garantie externe est toujours incertaine. Si ces droits sont positifs, leur efficacité est assurée par le droit positif, mais leur validité demeure relative ou, en un sens, arbitraire. Alors, dans cet article que j'avais écrit il y a quelques années, j'avais avancé une hypothèse, et je veux ici la pousser un peu plus loin. S'il est vrai que les institutions, de manière générale, relèvent de ce que Hegel, à la suite d'Aristote, nomme la seconde nature, autrement dit, si elles inscrivent, les institutions, l'artifice dont relève indubitablement le droit positif dans l'ordre d'une quasi-naturalité, alors concevoir le droit, the law, comme une institution ou comme un système d'institutions permet peut-être de surmonter l'alternative entre juste naturalisme et juste positivisme. Du même coup, penser les droits subjectifs, rights, comme des institutions, en un sens qu'il convient bien entendu de préciser, peut être une tierce voie entre la représentation bien dévaluée, il faut le dire, des droits naturels de l'homme et la subordination des droits aux aléas de la positivité. Mais si on examine la vaste panoplie des théories institutionnalistes du droit, que peut-on y trouver qui nous permette de penser les droits comme d'authentiques institutions ? Je dis bien les droits comme d'authentiques institutions. C'est ce que j'aimerais essayer de préciser un peu mieux que je ne l'avais fait précédemment. J'ai d'abord parlé des institutions en général, puis des institutions juridiques, puis des droits comme institutions. Qu'est-ce qu'une institution ? J'en adopte la définition suivante, qui est très générale. Une institution est un système normatif coordonnant de manière durable, souvent non concertée, les actions d'individus ou de groupes auxquels elle assigne un statut et ou un rôle, qu'il s'agisse des agents de l'institution, fonctionnaires par exemple, ou de ses destinataires publics, lorsque ces actions sont relatives à un certain but, à ce que Hoyou appelait une idée directrice. Ce but étant défini de manière objective, en ce sens que le but de l'institution ne dépend pas ou ne dépend que partiellement des représentations et des attentes des individus et des groupes concernés. Le but de l'université ne correspond pas à l'idée qu'un universitaire peut s'en faire, forcément. Une institution peut, mais ne doit pas nécessairement, être organisée selon des règles explicites, des statuts, ou, pour employer le vocabulaire de Searle, des règles régulatives. En revanche, à la différence de brute facts, son origine n'est pas à chercher dans un événement naturel, mais dans ce que Searle, dans la continuation de Wittgenstein, nomme une règle constitutive. John McCormick, juriste institutionnaliste, parle pour sa part préférablement de règles institutives. En tout cas, cette règle constitutive ou institutive de nature sociale provoque l'existence de l'institution et ses actualisations. Cette règle peut être réelle lorsque l'institution fait l'objet d'une définition sociale explicite, mais elle peut être mythique si sa fondation est attribuée à une autorité suprahumaine. Elle peut aussi procéder elle-même de l'activité d'une autre institution. Enfin, sous certaines conditions, une institution peut, en vertu de certaines propriétés communément attribuées aux individus, comme la personnalité ou la volonté, disposer d'une quasi-individualité. C'est le cas de ce qu'Auriou nomme les institutions personnes. On ne s'était pas concerté, mais je cours sur le chemin ouvert par Paolo Napoli. Je reviens rapidement sur ces différents points. Tout d'abord, les institutions, et pas seulement les institutions normatives, ont, sinon toujours une vocation normative, du moins des effets normatifs. Elles prescrivent, interdisent, autorisent des classes d'actes qui seront considérés comme bons, nuisibles ou acceptables. Pour le dire autrement, les institutions génèrent du devoir-être, des obligations, des règles explicites ou des normes informelles. Deuxième aspect caractéristique des institutions en général, l'institution, là je m'inspire bien sûr de Auriou, l'institution est une idée faite chose ou faite acte. Elle s'organise, dit Auriou dans l'article, le fameux article sur la théorie de l'institution et de la fondation, elle s'organise d'après, je cite Auriou, l'idée de l'œuvre à réaliser dans un groupement social, mais cette idée a, ajoute Auriou, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, une nature objective, ce qui signifie qu'elle n'est pas l'idée de quelqu'un, que quelqu'un, pardon, ou qu'un groupe de personnes habilitées aurait, mais une idée qui possède une existence percée, une idée matérialisée par la vie de l'institution et constituant, en quelque sorte, l'arrière-fond des représentations de ses agents. Cette idée, agissant dans et par des institutions, a, comme dit Durkheim, une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. C'est dans les règles de la méthode sociologique. Troisième caractère d'une institution, la stabilité. Comme dit Auriou, je le cite, « Les institutions représentent dans le droit, comme dans l'histoire, la catégorie de la durée, de la continuité et du réel. » De ce fait, tout en évoluant, mais en évoluant lentement, elles échappent largement aux prises des individus et de la société elle-même, qui souhaitent aussi, ce n'est pas incompatible, les transformer. Leur origine se perd dans la nuit des temps. Aussi, dans les sociétés traditionnelles, cette origine ne trouve à se dire que dans la langue du mythe et dans les rituels grâce auxquels ces sociétés s'assurent de leur identité en sacralisant leurs institutions les plus fondamentales. Par exemple, les mythologies agraires dans la mythologie grecque. Bien entendu, tout ce qui concerne l'origine de la famille, de la propriété et de l'État, pour poursuivre le dialogue avec Marx et Engels, en l'occurrence. L'institution n'est le fait de personne, si ce n'est peut-être d'un héros mythique, donateur des lois. Elle est, veut-on croire, toujours déjà là. Quatrième caractère, les actes qui s'accomplissent dans le cadre d'une institution sont ritualisés, comme on le voit dans le cas du très ancien droit romain, où la validité juridique d'un acte était suspendue, comme on sait, au prononcé de certaines formules conventionnelles. Il s'agit, comme dit Auriou, d'opérations à procédure. Cette procéduralisation assure l'identité objective de l'institution et évite le recours à la fiction selon laquelle, derrière tout acte, et notamment derrière tout acte collectif, il y a une intention qui en détient le sens. Comme le dit Elisabeth Anscombe à l'encontre de ce qu'elle appelle l'absurdité du psychologisme ordinaire, je la cite, « En gros, l'intention d'un homme, c'est son action. » Cela tient à ce que l'acte en question a pour cadre une institution qui lui confère une signification objective indépendante des buts que l'acteur poursuit et que celui-ci, d'une certaine manière, cet acteur, est contraint d'entériner. C'est ce que Auriou nomme, enfin, si je comprends, ce qui n'est jamais certain, l'adhésion au fait. Par exemple, j'accepte la procédure électorale et ses règles dès l'instant où je suis inscrit sur la liste des électeurs et suis lié par son résultat. C'est peut-être ce que voulait dire Rousseau lorsqu'il affirmait que lorsque le résultat est contraire à mon suffrage, cela signifie simplement que j'ai commis une erreur d'interprétation quant au contenu objectif de la volonté générale. Je résume. Culture faite nature, les institutions sociales participent de la seconde nature au sens de Hegel. Leur existence est le cadre évident, pour ainsi dire invisible, que présuppose tout agir sensé. Comme dit Auriou, l'institution est une sorte d'âme objective qui se réfracte en chaque individu. Incorporée aux choses qui nous entourent, c'est une citation de Auriou, elle est en quelque sorte une idée faite chose. Ainsi comprise, la notion d'institution est très proche de ce que Hegel nommait « esprit objectif », un esprit déposé dans les mœurs et les pratiques avant de l'être dans les consciences. Un esprit qui n'est pas tant ce que les hommes ont dans la tête que ce qu'ils sont, incorporé qu'elle est dans leur mode collectif d'être, de parler et d'agir. Qu'en est-il maintenant des institutions juridiques ? La théorie des institutions juridiques ne se confond pas, je le sais, avec la théorie institution ou avec les théories institutionnalistes du droit, mais je vais, pour les besoins de la ferme, limiter l'examen à cette dernière. Donc, cette appellation, au demeurant, théorie institutionnaliste du droit, recouvre des théories fort diverses. Il y a, par exemple, une grande différence entre les théories institutionnalistes de la première moitié du XXe siècle, Auriou, Santi Romano, Carl Schmitt, à une certaine période de son évolution intellectuelle, et celle de la seconde moitié de ce même siècle, généralement inscrite dans un horizon, dans une perspective analytique, et qui accorde une importance considérable à la philosophie du langage. Plutôt que de tenter vainement de balayer tout le spectre de l'institutionnalisme juridique, je vais me concentrer sur un exemple délibérément anachronique, celui de la conception des Rechtsinstitute chez Savigny. Je remonte au XIXe siècle, parce que, me semble-t-il, cela permet de mettre en lumière certains traits caractéristiques d'une approche du droit en termes institutionnels. Je note pour commencer que, contrairement à la langue juridique allemande, le français ne permet pas de distinguer, alors que Savigny le fait expressément, entre « Rechtsinstitut » et « Institution ». Nous n'avons pas deux mots pour désigner les instituts de droit, mais on ne peut pas dire ça parce que ça produirait immanquablement un contresens. On croirait qu'il s'agit d'une fac de droit. Et les institutions, au sens alors les grosses institutions, les méga-institutions. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Auriou fait cette distinction entre les institutions choses, qui correspondent d'assez près à ce que Savigny appelait des Rechtsinstitute, et les institutions corporatives ou institutions personnes. Les premières, comme la propriété, le mariage, disposent seulement d'une individualité objective, alors que dans les institutions personnes, comme les associations, cette individualité, dit Auriou, passe à l'état subjectif, ce qui les dote d'une personnalité morale, comme on dit. Cette distinction est importante, parce qu'on a tendance à confondre, mais depuis ce matin, je ne suis pas le premier à le dire, institutions et institutions personnifiées, et du même coup à valoriser la dimension subjective de la personnalité au détriment de l'objectivité fondamentale de l'institution et de son idée directrice. Or, il me semble que la notion d'institution-chose ou celle de Rechtsinstitut chez Savigny sont particulièrement pertinentes lorsqu'il s'agit, ce qui reste mon but, je ne l'ai pas oublié, de traiter les droits subjectifs comme des institutions. Je reviens à Savigny. Alors, je vais me référer à son traité de droit romain actuel. Une traduction existe, mais je me suis permis de donner mes propres traductions dans les citations que je vais faire, car cette traduction qu'on trouve à la bibliothèque Cujas, évidemment, est, comme toutes les traductions du XIXe siècle, assez lâche et imprécise. Au chapitre 2 du livre 1 de son monumental traité de droit romain actuel, qui date de 1840, Savigny définit les concepts fondamentaux de Rechtsverhältnis, rapport de droit, de Rechtsinstitut, institution juridique si on veut, de Rechtswelle, source de droit, et de Volksgeist, esprit du peuple, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 respectivement. Au paragraphe 4 de ce chapitre, Savigny prend pour point de départ la notion qui, depuis les grandes déclarations de la fin du XVIIIe siècle, s'est imposée apparemment, et ça ne lui plaît pas du tout, comme la pierre angulaire de l'édifice juridique, celle de droit subjectif, entendue comme, je le cite, une puissance à la disposition de la personne individuelle et qui définit, je le cite de nouveau, un domaine où sa volonté règne. Plus tard, on parlera de Willemsmacht. Savigny indique la voie qui va conduire ultérieurement les juristes allemands à formuler ce concept de Willemsmacht sur lequel certains collègues, en particulier Olivier Jouan-Jean, ont écrit des choses décisives. Mais contre la conception en voie de devenir dominante, qui fait donc des droits subjectifs et des droits fondamentaux, des droits de l'homme, disons-le clairement, la pierre angulaire de tout édifice juridique, Savigny affirme que cela n'épuise pas l'essence de la question. En effet, dit-il, chaque droit subjectif ne représente qu'un aspect particulier du rapport de droit, de sorte que seule une intuition d'ensemble de celui-ci permet de statuer sur la validité de la revendication d'un droit subjectif. Le rapport de droit, qui a une nature organique, entendons, qui s'inscrit dans un corps, dans un ensemble fonctionnellement coordonné, le rapport de droit est donc la réalité juridique de base. Chaque fois que le juriste a affaire à un cas qu'il s'agit de trancher, il convient avant tout de déterminer la nature du rapport de droit qu'il engage avant de trancher en faveur de tel ou tel. Mais la notion de rapport de droit renvoie elle-même à celle, plus fondamentale encore, d'institution de droit, Rechtsinstitut, par exemple celle de propriété. Savigny écrit au paragraphe 5, chaque rapport de droit est subordonné à une institution juridique, Rechtsinstitut, correspondante, qui en est le type, et se trouve régi par cette dernière de la même façon que le jugement en droit est régi par la règle de droit. Donc l'objet véritable de la science du droit, ce sont les institutions juridiques et le système qu'elles forment, d'où le titre de l'ouvrage qui contient lui-même un formidable paradoxe, système du droit romain actuel. Savigny développe donc une conception structurale du droit. Le droit, c'est le système des Rechtsinstitute permettant, dans des rapports de droit donnés, l'allocation des droits subjectifs qui, du coup, cessent d'être le point de départ et la base de l'édifice juridique. Mais si les institutions juridiques ont une fonction, définie par leur place dans le système des institutions, elles ont aussi un sens historique, qui ne peut être élucidé que si on les rapporte à leur source. C'est ce que fait l'herméneutique savante, la science historique du droit, qui joue ainsi le rôle d'interprète légitime de l'esprit du peuple, du Volksgeist. Pour Savigny, et c'est la grande différence qu'il y a entre lui et son collègue et néanmoins ennemi Hegel, l'interprète légitime du Volksgeist, c'est le professeur de droit. Et ça n'est, pour ainsi dire, que lui. Bien entendu, il n'est pas question de remonter jusqu'à une sorte de point originaire à propos duquel, dit-il, avoue-t-il, toute preuve documentaire fait définitivement défaut, mais l'étude historique permet de découvrir dans les institutions et les règles déjà existantes les éléments qui permettent de statuer sur les conséquences normatives du rapport de droit en question. Je cite Savigny, « Partout où un rapport de droit vient en question et accède à la conscience, une règle de droit destinée à ce rapport est depuis longtemps présente. Il n'est donc ni nécessaire ni possible de l'inventer maintenant seulement. En relation avec cette propriété qu'a le droit universel, c'est-à-dire, comme je comprends, le droit objectif, d'avoir en tant que donné une existence déjà effective en toute situation donnée où il pourrait être recherché, nous le nommons droit positif. Autrement dit, la propriété distinctive des institutions du droit positif est donc qu'elles n'ont pas d'origine factuellement assignable. Le droit se présuppose toujours lui-même. Cette circularité fondamentale du droit n'est pas sans évoquer, il permet ce rapprochement, ce que Heidegger et à sa suite Gadamer ont nommé le cercle herméneutique. Savigny, collègue de Schleiermacher, pas seulement de Hegel, mais aussi de Schleiermacher, fondateur de l'herméneutique à Berlin, peut légitimement être considéré comme le fondateur d'une forme originale d'herméneutique juridique. Combien de temps me reste-t-il ?
Je pense une bonne dizaine de minutes.
Bon, je vais essayer d'accélérer. Que signifie pour les Rechtsinstitute cette combinaison des deux propriétés d'être à la fois inscrit dans une structure synchronique systématique et dans une configuration diachronique d'auto-présupposition ? Elle signifie, me semble-t-il, premièrement, que les institutions juridiques n'ont pas d'existence isolée, elles n'ont de sens que dans un système. Deuxièmement, qu'elles n'existent que dans la durée. Stabilité et connexité sont ainsi les propriétés caractéristiques des institutions juridiques, des Rechtsinstitute. C'est dire que le droit, comme système d'institution, comporte une circularité dynamique qui fait que rien ne peut y être considéré comme originaire ou donné. Ce qui, bien entendu, l'intention est claire, s'oppose à la conception révolutionnaire de droit subjectif originaire, absolu et supérieur à toute institution de droit positif. Le droit doit être considéré comme toujours déjà là, Savigny dit, la formule est remarquable, toujours antérieur, le droit est toujours antérieur à tout rapport de droit donné. Même si c'est factuellement inexact, mais c'est spéculativement vrai. Cette conception fait-elle de Savigny un institutionnaliste ? Jusqu'à un certain point, oui. Mais ce qui distingue sa position de celle des institutionnalistes doctrinaires, puisque j'emploie cet adjectif sans intention péjorative, je veux dire ceux qui se sont définis expressément comme institutionnalistes, par exemple Orius, Santiromano, Rudolf Smend ou Carl Schmitt à une certaine période, ce qui le différencie d'eux, c'est que Savigny s'en tient à une conception technique et, si j'ose dire, locale de l'institution, celle d'un historien privatiste, soucieux d'éviter les conceptions massives et englobantes, comme peuvent l'être la théorie aurienne de l'institution ou la conception schmittienne de la pensée de l'ordre concret. À cet égard, son contemporain et adversaire Hegel a, avec sa conception de l'esprit objectif, développé une conception de l'institution qui se rapproche plus de l'institutionnalisme du XXe siècle que de Savigny. J'en viens au droit au pluriel. Que peut apporter l'adoption d'une perspective institutionnaliste à l'approche des droits ? Bien que les théories institutionnalistes aient relativement peu développé cet aspect, elles nous engagent à concevoir les droits subjectifs ni comme des droits naturels et imprescriptibles, ni comme de pure création positive, mais comme des institutions ou comme des éléments s'inscrivant dans le contexte d'institutions juridiques. En suivant une telle direction, on est conduit à s'éloigner de la vision libérale classique des droits comme propriété normative attachée, que ce soit par nature ou par convention, aux individus, en soulignant que les droits subjectifs ne font sens qu'à être mis en réseau au sein de configurations institutionnelles. Naturellement, ceci suppose qu'on se dote d'un concept suffisamment riche et précis de ce qu'est une institution, et en particulier une institution de droit. Je vais partir ici, alors là je vais être plus dans le présent, ou presque présent que tout à l'heure, des conceptions de Searle qui ont inspiré un certain nombre de théoriciens institutionnalistes contemporains du droit, comme Neil McCormick. Ouvrage après ouvrage, Searle a développé, dans le sillage de Wittgenstein et d'Anscombe, comme on le sait, une conception des faits institutionnels qui a servi de base à ce nouveau champ de recherche qu'on nomme ontologie sociale. À côté des brute facts, des événements explicables selon des chaînes causales, il existe des faits non naturels, mais pourtant bien réels, dont l'existence repose sur une définition sociale, en l'occurrence sur un acte d'intentionnalité collective que Searle nomme « status function declaration ». Cet acte jouant le rôle de règle constitutive et dont la formule générale, nous explique Searle, depuis les actes de langage, il reprend ça dans tous ses ouvrages, X compte comme un A dans le contexte C. Je note au passage que l'ontologie sociale de Searle est une nouvelle manière d'affronter le vieux problème des représentations collectives, déjà abordé, entre autres, par Hegel et Durkheim, mais dont la formulation est renouvelée par la philosophie contemporaine, à la suite notamment des travaux du philosophe finlandais Raimo Tuomela sur ce qu'il appelle les « we intentions », les intentions, les « nous intentions », si l'on peut dire, donc intentionnalité collective. Certes, les droits ne sont pas de pure représentation, mais leur définition suppose un cadre institutionnel reconnu collectivement, et leur exercice ne fait sens que dans ce cadre. Mon propos n'est pas de m'interroger ici sur la valeur de l'ontologie sociale en tant que programme d'investigation philosophique. Il s'agit plus modestement d'examiner en quoi cette approche permet ou non de fournir une description pertinente du statut des droits et du type d'être qui leur revient. À mon sens, la seule définition des droits comme faits institutionnels est inapte, car trop extensive, à penser la spécificité ontologique des droits subjectifs et en particulier leur caractère normatif. Mais elle peut nous mettre sur la voie d'une conception affinée des droits en tant qu'institution. Au chapitre 8 de son livre « Making the Social World », ouvrage qui se présente comme une généralisation des principes exposés dans la construction de la réalité sociale, Searle se propose d'appliquer à la définition des droits de l'homme, c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, donc des droits que je suis censé avoir, je le cite, en ma seule qualité d'être humain, il tente d'y appliquer les instruments conceptuels de l'ontologie sociale telle qu'il l'a développée, et ce, en dépit de la critique ravageuse à laquelle des auteurs comme Bentham, ou plus proche de nous, Alasdair MacIntyre, qui assimile les droits de l'homme à une licorne, ont soumis cette idée. Pour ce faire, Searle entreprend de définir l'humanité comme un statut, be human is a status, dont peuvent découler un certain nombre de pouvoirs déontiques, deontic powers, que désigne improprement la notion de human rights. Je le cite, traduit, il n'est pas plus absurde logiquement d'assigner la fonction statut d'un droit directement à des humains que d'assigner la fonction statut d'être de la monnaie à un morceau de papier ou à une pièce d'or. La structure logique est la suivante. Nous devons traiter le fait d'être humain comme un statut, tout comme la propriété privée ou le fait d'être marié. Fin de citation. Donc, en dépit de différences qui sont, selon Searle, plus apparentes que réelles, les droits existent de la même manière, de manière institutionnelle, que la monnaie, les outils, le mariage ou d'autres institutions sociales, comme des faits institutionnels dérivant d'un acte d'intentionnalité collective. Une fois admis que les faits institutionnels n'ont pas moins de réalité que les faits naturels, les faits bruts, on peut considérer que les droits, et même les droits universels de la personne humaine, existent institutionnellement dès lors qu'ils sont socialement reconnus. Cette conception faisant des droits des faits institutionnels parmi d'autres pose, à mon sens, un certain nombre de problèmes. Pour commencer, l'idée que Searle se fait de ce qu'est un droit est assez approximative et ne tient aucun compte des raffinements qu'a opéré la théorie analytique des droits à la suite du travail fondateur de Hofeld. Searle affirme par exemple que tout droit est corrélé à des obligations. Or, ceci n'est vrai en toute rigueur que d'un seul des quatre types de droits distingués par Hofeld, à savoir les claim rights, c'est-à-dire les droits opposables à des personnes ou à des institutions déterminées. Les autres types de droits distingués par Hofeld, ce qu'il nomme privileges, powers et immunities, ont certes des corrélats, mais ces corrélats ne sont pas des obligations stricto sensu. Il se trouve que cette assimilation des droits humains fondamentaux à des claim rights est contre-intuitive, puisque la plupart de ces droits que l'on considère usuellement comme les plus fondamentaux des droits humains, que la plupart de ces droits, au moins dans le cas des droits dits de la première génération, sont plutôt, dans le vocabulaire d'Offel, des privileges ou des immunities, qui sont corrélés plutôt à des no rights. Je n'ai pas le droit d'interférer dans la sphère de liberté de l'individu, ou à des disabilities, à des incapacités, et non à des duties, à des obligations positives, comme c'est le cas des claim rights. Alors, il ne s'agit pas ici de simples sophistications décoratives. L'enjeu de la discussion est la possibilité ou non de définir les droits humains fondamentaux comme des droits opposables. Searle paraît considérer que cela va de soi. Or, c'est loin d'être le cas. Si on considère que la liberté personnelle ou la liberté d'expression sont des droits opposables, il faut pouvoir déterminer à qui elles le sont. Et même en disant qu'elles créent une obligation erga omnes, et en ajoutant que non seulement les individus, mais aussi les institutions publiques y sont soumises, on n'est pas tiré d'affaire. En effet, une obligation doit avoir un contenu positif. On est obligé de faire quelque chose. On est obligé de faire quelque chose. Une obligation universelle de non-interférence est plutôt, comme le disait Hofeld, un « no right ». Définir les droits fondamentaux comme des droits opposables est périlleux, car on risque alors d'en rester à une pure proclamation verbale. L'affirmation donc, selon laquelle « all rights are rights against someone » est d'autant plus problématique que Searle, dans la suite du chapitre, distingue deux catégories parmi les candidats au statut d'Universal Human Rights, les droits négatifs, qui correspondent aux libertés fondamentales, aux droits de la première génération, et les droits positifs, les droits à recevoir certaines prestations. Et il s'efforce de montrer, dans une optique libérale classique, que seuls les premiers, les droits de liberté, les libertés négatives, méritent d'être considérés comme des vrais droits de l'homme. Cette position comporte des attendus idéologiques évidents qui conduisent Searle à affirmer, je le cite, que le droit à la liberté d'expression est une conséquence naturelle du fait d'être humain, mais qu'en revanche, je le cite de nouveau, il n'existe en aucune façon un droit positif tel que le droit à un standard de vie confortable. Mais, surtout, il y a quelques paradoxes à vouloir ramener à la forme des droits opposables, des droits qui, comme les libertés fondamentales, il prend l'exemple de la liberté d'expression, résistent le plus à une inscription dans ce modèle. Ce que Searle reproche d'ailleurs aux droits sociaux est précisément que, contrairement aux droits de liberté, ils, je le cite, requièrent plus que la non-interférence. Par ailleurs, et je vais terminer là-dessus, la justification proposée par Searle de l'existence de certains droits humains universels repose, de son propre avis, sur des prémices éthiques. Mais si l'on fait dépendre l'existence des droits fondamentaux de prémices éthiques, c'est-à-dire non juridiques, on s'avance sur un terrain miné et on s'éloigne de la perspective institutionnelle dans laquelle Searle prétend inscrire ses droits. Certes, il ne manque pas d'arguments pour dire que les droits de l'homme sont, au fond, des droits moraux plutôt que proprement juridiques, mais il ne me semble pas qu'une théorie optative des droits, et notamment des plus fondamentaux d'entre eux, soit la voie la plus sûre pour s'assurer de leur existence. Cela ne signifie nullement qu'il faut renoncer à penser les droits comme des institutions, bien au contraire, mais je considère que pour rendre compte du type particulier d'existence qui leur revient, il faudrait une conception plus resserrée que celle de Searle, moins généraliste, moins englobante de l'institution et des faits institutionnels. Bon, je vais m'arrêter là. Je passe la conclusion. Merci beaucoup.